de la vie d'Élie. Hein. Donc, notre série, c'est Élie, l'homme des extrêmes. Et comme on disait dimanche dernier, c'est un homme dans lequel on pourrait se retrouver. Hein. C'est de nos jours, et on parle de gens qui sont bipolaires, tout ça. Peut-être qu'on aurait dit d'Élie qu'il était bipolaire. Et puis, si on vous a dit que vous l'êtes, eh bien, écoutez, rassurez-vous. Hein, le Seigneur, il nous prend, peu importe comment les gens nous appellent et comment ils appellent le problème qu'on a, mais le Seigneur, il nous reçoit. Et donc, nous sommes dans le chapitre 18. Hein, la semaine dernière, nous avons vu comment le Seigneur, par une série de trois épreuves, eh bien, il a fait une œuvre dans la vie d'Élie, le préparer pour justement ce chapitre 18. Lorsqu'il fallait être tout seul contre tous. Alors, bien sûr, notre passage de départ et le passage de base pour notre série, notre verset clé, vient de Jacques, où il nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et nous avons dit 2-3 choses là-dessus, nous avons ajouté encore 2-3 pensées, quand il nous dit que Élie était un homme de même nature que nous. Ce Jacques chapitre 5, si vous le connaissez bien, c'est un passage qui justement traite d'un cas où il y aurait une personne ou des personnes qui auraient péché, mais pas seulement péché une fois glissé, mais qui aurait été dans le péché, qui aurait été vécu dans le péché, pratiqué le péché pendant un temps. Un enfant de Dieu qui se serait égaré et qui a vécu dans le péché pendant un temps, eh bien, il dit à cette personne de confesser son péché, de venir confesser à Dieu, bien sûr, et puis ensuite de demander que les anciens de l'Église prient en l'oignant d'huile. Et c'est dans ce contexte-là que, justement, il nous dit « Élie était un homme de même nature que nous ». C'est-à-dire, il est en train de dire à cette personne-là, cette personne qui peut-être est dans la honte et qui est dans... parce qu'elle s'est égarée, elle a vécu dans le péché, et bien, il dit « Élie était un homme de même nature que nous ». Donc, C'est ce contexte-là nous rassure. Et Élie, tout en ayant été un homme de même nature que ce frère ou cette sœur qui aurait vécu dans le péché, eh bien, pourtant son nom est cité 13 fois, rien que dans les évangiles. Plus souvent que Moïse même ou qu'Abraham. Hein, donc, c'est vraiment, il y a de quoi donner de l'espérance. Et... Donc, Élie était de même nature que nous, c'est-à-dire il n'était pas meilleur que le cas qu'a soulevé Jacques dans ce chapitre 5. Et donc, personne n'est au-delà de la portée de la grâce de Dieu. Nous avons vu dimanche dernier comment Dieu a pris cet homme-là, qui est de la même nature que nous, et comment il a travaillé avec lui, il a persévéré avec lui. Bien sûr, Élie a suivi, hein, il a quand même obéi, hein, donc, parce que sinon le progrès s'arrête, hein, dès qu'on ne coopère pas avec le Seigneur, ça s'arrête. Mais il a travaillé avec lui, et Dieu le transforme petit à petit. Ce que nous avons vu aussi, qu'il y avait un autre personnage dans le chapitre dernier, c'était Akab, le roi Akab, un personnage qu'on n'aimerait pas rencontrer. Mais il faut dire aussi que quand il a dit « il est un homme de même nature que nous », c'était un homme de même nature qu'Akab. Ou Akab, c'était un homme de la même nature qu'Élie. Mais ils ont eu des parcours différents, pas parce que Dieu ne pouvait pas, mais parce qu'ils avaient fait des choix. Élie a fait un choix de suivre les instructions de l'Éternel, tandis qu'Akab a préféré suivre les instructions de son épouse, Jézabel. Et donc, ça a donné un parcours très différent. Mais alors, on arrive ici dans le chapitre 18, il est assez long, donc je ne vais pas le lire. Hein, vous, si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à le lire cet après-midi. Mais là, Dieu donne, et nous voici, on le voit au verset 1 du chapitre 18, un roi 18, il dit « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans la troisième année. Va, présente-toi devant Akab. » Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Maintenant, il dit que maintenant que Akab est bien en colère, hein, après, il a eu 3 ans et demi pour vraiment. Hein, il dit maintenant, tu vas aller le voir. Il dit mais c'est parce que on va le voir, c'est pas pour encore l'énerver ou l'exciter encore plus, mais c'est pour la grâce de Dieu. C'est pas Akab qui a demandé, c'est pas à cause d'Akab que la pluie va venir. C'est parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et qui va accorder cette pluie. Alors, je saute la rencontre avec Abdias, et ce qui se passe là, et j'arrive au verset 20. Donc, Diakab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes. Attendez, je vais sauter une partie. Verset 16. Donc, Élie avait dit à Abdias, va chercher ton maître, le roi, et dis-lui que je dois le rencontrer. Et verset 17, à peine Akab aperçut-il Élie, qu'il dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Il dit, c'est toi qui crée les problèmes. L'accusation, mais bon, en premier temps, elle est basée sur justement les premiers versets du chapitre 17 où Élie est venu sans être invité et il a dit il ne va plus voir sinon sur ma parole. Alors là, Akab, il dit mais c'est toi qui crée les problèmes et qui a créé cette crise de sécheresse dans le pays. Parce que Élie avait dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon sur ma parole. » Et Akab, c'était un homme qui ressemble beaucoup à ceux de nos jours. Il avait une vision myope du monde. Il voyait que, tout de suite, c'est comme... c'est la main de quelqu'un qui m'a giflé, donc je me fâche contre la main. Non, je vais chercher, la main appartient à qui, hein? Mais là, il y a la sécheresse, c'est Élie qui a prononcé les dernières paroles, donc c'est lui. Et vous savez, de nos jours, il y a aussi beaucoup de gens qui sont comme ça, et ils jugent, et leur première réaction, c'est... Vous savez, c'est ce que Akab fait là, c'est comme le prisonnier qui dit « c'est le juge qui m'a mis en prison ». Non, c'est pas... Oui, c'est vrai, c'est le juge qui l'a mis en prison, dans un sens. Mais c'est toi qui t'es mis en prison, par ce que tu as fait. Hein? Mais combien... Et c'est un peu souvent ça avec les hommes, avec Dieu. Et alors, c'est comme si on voulait accuser Dieu... de tout ce qui se passe, tous les maux, on dit, mais si Dieu était un Dieu bon, pourquoi toute cette souffrance? Comme si c'est la faute de Dieu que des maris battent leurs femmes, que les filles sont violées, qu'on vende des armes qui ne servent qu'à la destruction, comme si c'était la faute de Dieu. Il dit, et Dieu, pourquoi il fait ça? Écoute, regarde un peu plus loin, hein. Regarde qui est-ce qui fait cela, en fait. Et Élie il va pas laisser parler longtemps, parce qu'il va répondre très vite au verset 18, et Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous êtes allé après les Baals. Il dit, c'est pas moi, c'est vous, parce que ce que vous vivez, ce sont les conséquences de vos choix. Peut-être que ce que je souffre n'est pas forcément, toujours parfois c'est les conséquences de notre société, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on souffre, dont on souffre, que on est pour rien directement, personnellement, mais c'est l'humanité a fait des choix et toute la société en souffre. Et mais là, Élie dit tout de suite, c'est pas moi, c'est toi, c'est toi. C'est toi qui as été épousé Jézabel, et puis après c'est toi qui as commencé à instaurer l'adoration des Baals. Baal, c'était le dieu mâle, et puis Astarté, c'était son épouse, hein, c'était la déesse, Astarté. Donc les deux sont là. Et il dit, vous savez, ce que vous vivez là, c'est ce que vous avez semé. Hein, il y a un dicton français qui dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. Mais vous savez, c'est le prophète Osée qui a dit, puisqu'ils ont semé le vent, ils moissonnent la tempête. Hein, c'est une expression, en fait, ça vient de la Bible. Et donc, il dit, mais voilà, tu as semé le vent, tu récoltes la tempête, ne mets pas la faute sur quelqu'un d'autre, assume et repens-toi, en fait, dans un sens. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en Israël, ils ont essayé tout en... Aucun n'aurait dit, nous avons abandonné l'Éternel, seulement ils ont dit, mais bon, on adore les Baals aussi. C'est-à-dire, on n'a pas abandonné quelque chose, mais on intègre et on essaie de vivre. C'est pour ça que un peu plus tard, au verset 21, ce qui sera la base de notre étude, le verset 21, il dit, Élie dit au peuple, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ?» En fait, vous essayez de garder Dieu et en même temps, Baal. Peut-être que les exigences de Dieu sont un peu difficiles, celles de Baal sont un peu plus faciles, elles vous conviennent mieux, mais vous ne renoncez pas à l'un, mais vous passez de la droite à gauche. Vous savez, les enfants d'Israël menaient une démarche spirituelle qu'on aurait dit dandinante. Hein, il dit, comment boiterez-vous, hein, c'est comme ça. Hein. Vous êtes une fois à droite, une fois à gauche, et puis finalement, ça commencera plus, moins par ici, plus par là. Hein. Et c'est là où on arrive, et c'est là que Élie est là, il confronte ce peuple et dit, écoutez, vous essayez d'aménager la chèvre et le chou, ça ne marche pas. Et donc, Élie va faire une démonstration sur le mont Carmel et qui va mettre tout cela en place. Et là encore, il y aura tout un passage à lire, là, des versets 30 jusqu'à 39, 38. Il décrit comment il fait tout pour que l'on ne puisse pas dire qu'il y a un truc dedans. Hein, il va, d'abord, il dit au prophète de Baal, il dit, écoutez, vous choisissez le taureau, vous bâtissez votre autel, vous allez les premiers, vous appelez votre Dieu, tout ce qu'on va, on ne va pas mettre le feu sur un autel, et c'est le Dieu qui répond par le feu, qui est le vrai Dieu. Et eux, ils ont dit, d'accord. Moi, je vous ai dit que la semaine dernière que Baal, c'était le dieu de la fécondité, donc c'est le dieu qui a la pluie. Avec la pluie, bien sûr, il y a le tonnerre, mais il y a aussi la foudre. Et donc, c'était dans les capacités de Baal de frapper avec la foudre. Hein, donc, Élie, vraiment, il leur a donné tous les avantages possibles. Et bon, le seul truc, c'est qu'ils n'arrivaient pas à amener un seul nuage dans le ciel. Hein, sans un nuage, c'est difficile d'avoir de la foudre. Et alors il leur a dit, mais peut-être votre Dieu est en voyage, peut-être qu'il dort, peut-être. Et parce que c'est arrivé, les Phéniciens, ils prétendaient emporter Baal avec eux sur la mer. Et donc il était en voyage. Hein, donc Élie n'est pas en train de dire des choses qui n'existent pas, c'est des choses qui se disaient. Parfois, ça, quand on entend ce que les gens croient, ça. Par respect, on ne rit pas, mais on aurait envie. Mais il se moque d'eux-mêmes un peu, et puis il attend jusqu'à début de l'après-midi, et puis il dit, alors... Et là, ils sont en train de se mutiler même, ils sont arrivés au point de se mutiler, Juste dernièrement, là, il y a eu une fête chiite, là où ils se battent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est terrible comment ils se battent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas défendu le fils du prophète, ils l'ont laissé être tué. Et donc, ils se repentent de cela. Après, il y a aussi, il nous parle de ces prophètes de Baal qui tournaient autour de l'autel. Et vous savez que dernièrement, il y a eu un pèlerinage à la Mecque où, justement, il y a 7 tours qu'il faut faire. Hein. C'est des tours. Vous savez, c'est le paganisme. C'est le paganisme. Nous n'avons pas ça. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens, ça ne change rien du tout. Il dit, les vrais adorateurs adorent en esprit, en vérité. Hein? Donc, vous pouvez être suspendu à une corde, comme vous pouvez être au troisième sous-sol. C'est pareil. Hein? Nous pouvons adorer le Seigneur. Et puis finalement, Élie dit, okay, écoutez, ça suffit, on vous donne notre chance là. Et c'est le moment de la prière. Et donc, il va faire une démonstration. Et vous lisez le récit, il prie, la prière elle est courte. Il n'y a pas besoin, hein. Il ne se répète même pas, il n'y a rien du tout. Il dit ce qu'il a à dire parce que Dieu entend. Hein? Quand on répète souvent les mêmes choses et on continue, on répète et on allonge et tout ça, c'est parce qu'on a le sentiment qu'il n'entend pas. Hein? C'est ça que fait un enfant quand il a l'impression que papa, il n'écoute pas. Il dit, papa, tu sais, papa, papa, hé, hey, papa, tu sais, j'ai envie de papa, écoute-moi, regarde-moi, et papa. Non, mais on n'a pas besoin de tout ça dans nos prières. Jésus dit, je sais que tu me parles, j'écoute. Parfois c'est pas qu'il fallait la sourde oreille, mais parfois, c'est nos actions et le péché qui n'est pas confessé qui le rend un peu sourd. Et là, on a besoin de peut-être régler ça. Hein, la ligne est en dérangement, hein, il faut la rétablir. Élie va prier et il aurait déjà préparé ça. Hein, il a rebâti l'autel, il a mis l'offrande et puis il a même versé de l'eau dessus pour s'assurer, pour que tout le monde sache qu'il n'y a pas. Pourtant, l'eau c'était précieux à l'époque. Hein, je ne sais pas quel prix il a payé pour avoir de l'eau à verser là-dessus, mais c'est pour qu'on ne pense pas qu'il y ait caché un feu là-dedans. Il n'y a rien du tout. Alors, c'était imbibé d'eau, c'est coulé même à l'entour, et quand il a prié, le feu est descendu comme il était descendu par le passé. Hein, c'est l'autel du tabernacle, c'était le feu qui était venu du ciel, et d'autres fois le feu est venu du ciel, et là il a brûlé, il a consumé et l'autel, et la pierre, et l'eau, et tout. Il ne restait qu'un trou. Et les gens, ils ont regardé, ils ont dit. Wow. Et qu'est-ce qu'il pouvait dire? Eh bien, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais vous savez, la semaine prochaine, on va passer au chapitre suivant, 19, avec une pareille démonstration que Dieu est le vrai Dieu. C'est Dieu qui répond et tout. Eh bien, le gros problème du chapitre 19, c'est qu'Élie se trouve tout seul. Personne ne s'est tourné vers Dieu. Ils ont tous dit, l'Éternel, c'est Dieu. Mais il se retrouve tout seul. Vous savez, un miracle ne donne pas la foi. C'est la seule chose que produit un miracle, c'est l'envie d'en avoir un autre. Hein, c'est comme certaines chaînes et des séries, on termine avec une, on a envie de passer au prochain. Suite au prochain numéro, et c'est... Mais ça ne donne pas la foi, parce que la foi ne vient pas d'un miracle, la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Dieu. On avait demandé à Jésus, on a dit, écoute, fais pas un miracle. Mais il dit, je fais que ça. Et on lui dit, mais fais-nous un miracle. Et Jésus a répondu, cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Et le miracle dont il parle et que reprend l'apôtre Paul, c'est justement la résurrection de Jésus. Jésus qui est mort, enterré et ressuscité. Et Et l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, dira son fils, né de la postérité de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce qui démontre que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu, eh bien, c'est qu'il est ressuscité. Et je suis en train de lire un livre d'apologie, et ils sont en train de toutes les preuves à ce que Jésus est réellement mort, à ce qu'il a été vraiment enterré, à ce que c'est vraiment sa tombe, à ce qu'il est réellement ressuscité. Est-ce que intellectuellement il y a toutes les raisons? Il le dit, mais c'est tellement clair qu'il n'y a pas de doute. C'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Hein? Christ est réellement, il dit, c'est s'il n'y avait pas d'autre miracle que celui-là, ça suffit largement. Hein? Et finalement, c'est ce que j'ai besoin, c'est parce que la foi qui vient d'un miracle, eh bien après il y en a besoin d'une confirmation, un autre miracle derrière pour être sûr que c'est toujours vrai. Tandis que quand c'est la parole de Dieu, eh bien je peux ouvrir ma Bible n'importe quel jour, relire et je trouve les mêmes paroles et la même promesse. Et ça ne change pas. Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend des paroles de Christ. Élie a fait une démonstration indiscutable. Et ils ont dit, l'Éternel, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, mais ça n'a pas été suivi par une repentance. Et donc, il n'y a pas eu d'abandon de leur péché, ni rien du tout. C'était juste une expérience émotionnelle. Oh ! Et c'est certainement qu'ils en ont parlé et tout ça, mais ça n'a pas changé leur vie. Et j'espère que ce n'est pas votre cas. Le Seigneur veut bien faire des choses, il veut bien agir, il fait des miracles, il en fait encore de nos jours. Et le plus grand miracle, c'est de prendre un homme pécheur, méchant, et de le transformer en quelqu'un d'aimant. Mais ce que nous avons besoin, c'est de croire à l'Évangile, le message de l'Évangile. L'apôtre Paul aux Corinthiens, qui avait justement des problèmes de chair et qui voulait, qui aimait voir des manifestations, eh bien il leur dit, écoutez, voilà ce qu'il faut croire. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça, c'était peut-être la première confession de foi de l'Église primitive. Ça, hein? Ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est la base. Et tout est là. Hein? Après, nous, bon, avec nos petits clochers, là, on a compliqué les choses et on a toutes nos petites sauces qu'on ajoute au repas. Mais l'essentiel, Christ est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Ça, c'est ça qu'il faut croire. Et si je le crois réellement, et s'il est mort, c'est pour mon péché, s'il est enseveli, c'est pour vaincre la mort, et s'il est ressuscité, c'est pour me sauver. Hein, donc tout est là, et je dois croire ça. Et si je le crois vraiment, eh ben, ce ne sera pas comme ces enfants d'Israël qui ont dit « Ouais, c'est l'Éternel qui est Dieu », mais finalement, ça n'a rien changé. Vous savez, c'était Jacques lui-même, tout à l'heure, on avait parlé de Jacques... qui parlait, et ben c'est lui qui dans le chapitre 1, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons, ils croient aussi, et ils tremblent. Mais ça ne change rien à leur mode de vie. Hein? Et donc, ça ne suffit pas de croire en Dieu. Beaucoup, hein, si vraiment, autour de nous, on rencontre toutes sortes de gens qui disent, je crois en Dieu. Et après, il dit, mais Dieu, votre Dieu, il est comment? Après là, il parle que la France a tellement de fromage, il n'arrive pas à se mettre d'accord lequel est le bon. Mais vous savez, quand il commence à demander à Dieu qui est Dieu pour toi et comment est-ce qu'il est, alors là, les livres ne suffiraient pas pour décrire le Dieu de chacun. Non, ce n'est pas une question de comment il est ton Dieu, c'est une question de est-ce que tu crois en le seul. Euh, cette idée qui, de l'époque-là, ben, c'est l'idée qui domine encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Hein. Nous croyons que, combien de gens croient que s'ils assistent de temps en autre à l'Église, eh bien qu'on est meilleur que ceux qui ne le font pas, ou qui ne croient pas, ou qui ne croient plus. Je disais quelque part, il y avait un évangéliste qui prêchait comme ça sur le... Et puis, il y a un athée qui tout de suite lève la main et l'interrompt, puis il dit, écoutez, moi, j'ai 84 ans et je suis athée. Depuis, je crois que je ne sais plus combien d'années, il dit, depuis 60 ans ou quelque chose comme ça, il dit... Et l'autre, il dit, donc vous n'êtes pas né athée. Donc c'est un choix. C'est comme on choisit de suivre Christ, on choisit de ne pas croire en Dieu. Et pour beaucoup, ils sont athées plus par commodité que par conviction. Hein. C'est plus pratique de ne pas penser à lui et donc de nier son existence. C'est comme quand on a envie de faire de la vitesse, eh bien on dit, il n'y a pas de gendarme aujourd'hui. C'est aussi sûr. Hein. Et alors, on essaye et on veut, et c'était, on l'a dit déjà, mais c'était, le problème, c'était que ces enfants d'Israël essayaient d'accommoder et l'adoration de Dieu et les Baals. Les Baals, c'est le plaisir, donc on lui donne 6 jours. Et puis après, il y avait un jour, le sabbat, on le donnait à l'Éternel, peut-être. Et donc, 6 jours pour moi, 1 jour pour Dieu, déjà 1 heure pour Dieu, le matin, le dimanche matin. Et on essaye, et on pense qu'il devrait être content. Et on pense qu'il devrait être content. Vous savez, je discutais avec un pasteur à Kinshasa hier après-midi, là, au téléphone, et puis justement, on parlait de ce problème-là. Et vous savez, imaginez une épouse qui dit à son mari, « Tu sais, je t'aime beaucoup et je t'aimerai toujours. Tu es mon mari et le père de mes enfants. Mais j'aimerais que mon ami Jules habite chez nous, parce que je l'aime et je suis plus épanoui avec lui, et avec lui je rigole bien. » Je vous laisse imaginer la réaction du mari. Il dit, bon, écoute, chérie, j'aime ce qui est meilleur pour toi, ce que tu aimes faire. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Hein, croyez. Et on n'a pas besoin de croire en Dieu ni d'avoir une Bible à la main pour savoir comment réagir là. Et alors après, mais vous savez, combien de chrétiens font la même chose avec Dieu ? Il dit, Dieu, écoute, je t'aime beaucoup, tout ça. Je crois à la Bible. Là, j'en ai une sur mon chevet, tout ça. Mais bon, après, j'ai quand même des choses là que j'aime bien. On ne peut pas, tu me laisses, il faut être patient un peu, et puis voilà, tu comprends les faiblesses de l'être humain, aucun n'est parfait, et puis on connaît le refrain. Et après, on s'étonne que Dieu il soit un peu fâché, et qu'il ne nous parle plus. Mais vous savez, on demande de Dieu ce qu'on ne ferait jamais nous-mêmes, on n'accepterait jamais. C'est étonnant. Pourquoi, si nous ne pouvons pas tolérer que notre partenaire ait un cœur partagé, pourquoi est-ce que Dieu devrait l'accepter ? Cette épouse qui parle à son mari de cette manière, bon, ça peut être dans l'inverse, hein, c'est pas, mais qui parle à son mari de cette manière, le mari dit, mais il y a un problème. Déjà, le fait que tu suggères, que tu demandes ça, c'est que déjà, il y a une partie qui est partie, et peut-être qu'entièrement. Et moi, c'est pour le devoir, et lui, c'est pour le plaisir. Et combien font ça avec Dieu ? Hein ? Dieu, c'est... Bon, parce que c'est Dieu, hein. Donc je le conserve quand même, mais le plaisir, c'est ailleurs. Et vous savez, Dieu n'accepte pas qu'on partage. Vous savez ce qu'il a dit à Apocalypse 3, verset 16, il dit, « Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Il dit un chrétien froid, c'est-à-dire il est carrément dans le monde, il prétend rien du tout, tout ça. Au moins, il souille pas le nom de Christ. Parce qu'il dit à personne qu'il est chrétien, et personne ne le sait, et il est parti. Il se fait du tort, mais bon, mais celui qui... et puis après, celui qui est bouillant, qui est vraiment à fond pour le Seigneur, ben lui, c'est un honneur pour le Seigneur et qui représente bien le Seigneur. Mais celui qui est, comme dit Élie disait là, il boite des deux côtés, celui qui est ni chaud ni froid, hein, c'est un peu ceci, un peu cela, on mélange les deux. Moi, je suis moyen, je suis chrétien moyen, je ne suis pas les meilleurs, je ne suis pas les pires, je suis moyen. Eh bien, il dit, c'est vous qui me rendez malade. Parce que c'est à cause de vous que les gens maudissent Dieu. Il dit, mais ça sert à quoi d'être, devenir chrétien? Ben, sans être chrétien, je fais tout ce qu'il fait. Il fait tout ce que je fais. Et combien de fois on me l'a jeté à la figure? Et qu'est-ce que je pouvais dire, hein? Mais vous savez, c'était ça tout ce problème-là. Et Élie, il est confronté. Il n'y a pas de réveil ici, parce qu'il y a eu ce grand miracle. En fait, on a fait que mettre en valeur le vrai problème. C'est que ces hommes ne voulaient pas suivre l'Éternel. Et là, Élie, il a montré clairement que c'était, en fait, il préférait suivre les Baals. Et Élie avait dit c'est l'un ou c'est l'autre. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Il dit, choisissez, mais n'essayez pas de faire semblant de suivre les deux. Hein? Alors, s'il y a un choix à faire, il faut se déclarer. Et notez ce qu'il nous dit au verset 21, là. Hein, je lis le verset 20. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. C'est ça, silence. Et ça veut tout dire. C'est un silence qui était bruyant, celui-là. C'était un message fort. Ils n'étaient pas prêts à faire le choix. Pourtant, c'est de leur bouche qu'ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est évident. Mais nous, on va choisir autre chose. Et le Seigneur nous donne ce libre choix. Hein. On est actuellement sur la terre, on peut choisir. C'est pour ça que tout existe. Le Seigneur laisse agir. Mais après, il faut dire que on choisit ce qu'on sème, mais on ne choisit pas ce qu'on récolte. Hein, c'est... Après, il y a quand même un petit détail important, j'en ai parlé juste en passant rapidement, mais je vais revenir dessus, c'est au verset 30. C'est quand Élie appelle le peuple à venir et dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie rétablit l'autel qui avait été renversé. En fait, ça... C'est la description de la situation spirituelle en Israël. C'est pour ça qu'il y avait des soucis. C'est pour ça qu'il y avait la sécheresse. C'est pour ça que le Seigneur avait arrêté la pluie. C'est parce qu'on avait abandonné l'adoration de l'Éternel. Ça ne se faisait plus. Et l'autel était en ruine. Pas seulement qu'il était un peu négligé, où il y avait de la poussière. Mais il fallait le rétablir, il fallait rassembler les pierres. Et Moïse avait instruit, hein, c'était toujours 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Et puis c'était toujours des pierres non taillées, hein, c'était du brut, toujours du brut, hein, pour que la gloire ne soit pas dans l'autel, mais sur le Dieu de l'autel. Et l'adoration de l'Éternel ne se faisait plus. Et l'autel était en ruine. Et qu'en est-il de l'autel dans notre cœur, hein, l'autel de l'Éternel dans notre cœur? Est-ce qu'il a besoin d'être construit? Il n'y en a jamais eu. Donc ça, il n'y a pas de problème. Hein, on peut le faire, le Seigneur veut le faire. Est-ce qu'il est a besoin d'être réparé, hein, il est un peu négligé? Ou est-ce qu'il a besoin d'être carrément rassemblé, reconstruit, tellement c'est ancien? Mais là, c'est par ce geste-là, Élie, il dit, voilà le remède. Si on veut un remède de l'ordre, tu commences par l'autel. Et tu, si dans ta vie spirituelle, eh bien, rétablis l'autel de l'Éternel, l'adoration de l'Éternel. Donc il y a une repentance, il y a une constatation d'état des choses et un désir de vouloir changer cela. Hein, et l'autel, c'est pas le fait de venir à l'église le dimanche matin, c'est pas ça l'autel. Hein. L'autel, c'est quelque chose qui est dans le cœur, c'est ce culte personnel que chacun a, c'est un temps chaque jour, même s'il est court, mais même s'il est court, ça entretient l'autel. Hein? Une fois, en plaisantant un peu, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, chérie, je t'aime, et considère-toi aimée jusqu'à nouvel ordre. Comme ça, j'ai pas besoin de le répéter toujours. Elle a dit, non, je veux l'entendre. Je veux que tu le dises. Hein, c'est pas, ah oh oui, une fois, ben oui, une fois j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur et j'ai, voilà, et tout ça. Mais bon, après, maintenant, il doit être content. Hein, non, il dit, non, je veux que, tous les jours, je veux entendre. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu es reconnaissant pour ce que Christ a fait sur la croix. Dis-moi que tu voudrais me servir, que tu veux penser à moi. Hein. Et ce temps tous les jours où je m'arrête et je ne pense à rien d'autre, je me concentre. Parfois, c'est ça qui est difficile, c'est de pouvoir faire le vide. Hein. Déjà, de nos jours, poser le téléphone 5 minutes, c'est difficile. Hein. Et dès que vous le posez, il va sonner. Ou il va vibrer, ou il va faire quelque chose. Mais ça commence à compter uniquement quand je suis, ça y est, je ne suis plus distrait, je suis dedans. Hein. C'est pas le temps de préparation, si ça m'a pris une demi-heure, bon, ben ça, c'est pas ça. L'adoration, c'est quand j'étais entièrement à lui. Et après, là, on n'a pas besoin d'être long. Hein. Parce que là, vous savez, déjà avec mon épouse, de me mettre en face d'elle, de la regarder, je dis, écoute chérie, je t'aime. Et puis, bonne journée, et puis on s'en va. Mais ça suffit. Mais je pensais à elle. Je n'ai pas dit ça en claquant la porte avec « Oh chérie, je t'aime hein !» Non, non, ça ne compte pas, c'est devant. Hein, donc, vous savez, parfois on pense que le Seigneur devrait se contenter de beaucoup moins que ce que nous on exige des autres. Il est une personne, et nous sommes des personnes. À votre chien, vous pouvez ne pas lui dire que vous l'aimez. Ça ne changera rien. Et vous pouvez lui dire que vous l'aimez, c'est pareil. En fait, il écoute le ton de la voix plus qu'autre chose. Mais une personne avec qui on a une relation, ça c'est autre chose. Et Élie, eh bien, il a dû, pour qu'il puisse confronter ce peuple, il fallait que lui soit en relation avec le Père, avec l'Éternel. C'est un homme qui avait pris le choix, fait le choix. Il avait un homme de même nature que nous. Mais il a fait un choix, c'est de suivre l'Éternel, même si personne d'autre le faisait. Et après, il était en mesure d'inviter les autres à venir et revenir. Que le Seigneur nous aide, et je ne sais pas à quel niveau le Seigneur a pu nous parler ce matin, mais nous allons prendre quelques moments de silence et que chacun puisse déjà dire au Seigneur, Seigneur, il y a ça qui est vrai dans ma vie. Et ou je te remercie pour cela parce que c'est vrai, ou bien j'ai besoin de faire quelque chose. Je ne sais pas quelle est votre prière, mais prenons quelques moments de silence et voyons ça avec le Seigneur, et puis ensuite je prierai.